d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes bien le quatrième vendredi du mois et c'est donc l'équipe de la quatrième dimension qui investit l'émission Mode d'emploi avec au micro Mathieu et Damien et Claude aux manettes. L'émission de ce soir est consacrée aux énergies citoyennes et leur rôle dans la réussite de notre transition énergétique et écologique. Le 27 novembre dernier, Emmanuel Macron a présenté la programmation pluriannuelle de l'énergie et a notamment annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires à l'horizon 2035, mais surtout à repousser l'échéance pour réduire la part du nucléaire dans le mix électrique à 2035 et par la même occasion à menacer le développement des énergies renouvelables. Heureusement, comme nous sommes un pays peuplé de Gaulois réfractaires au changement avec de l'énergie à revendre, certains d'entre nous s'organisent localement et au niveau national pour produire leur propre énergie et créer une dynamique de transition à l'échelle des territoires. On va donc parler d'énergie citoyenne, une énergie produite par les citoyens et pour les citoyens aux multiples vertus que nous allons découvrir dans cette émission. C'est aussi pour nous un levier majeur pour réussir cette transition à l'échelle locale. Un sujet d'autant plus important aujourd'hui à l'heure où la France vit le mouvement des Gilets jaunes et où le rapprochement entre transition écologique et solidarité territoriale devient un enjeu prioritaire. Pour discuter de ces sujets, nous sommes ravis de recevoir Marion Richard. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes animatrice nationale au sein de l'association Énergie Partagée qui réunit des acteurs de la transition énergétique au niveau local et vous intervenez également au niveau national et régional pour sensibiliser et mobiliser les citoyens sur ces enjeux de projets d'énergie citoyenne. Et Jean-Baptiste Blondel, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes membre fondateur d'Enercitif qui est la première coopérative parisienne d'énergie renouvelable. Vous pourrez télécharger cette émission sur notre site Mode d'emploi, mais également la réécouter en rediffusion sur la radio Fréquence Paris Pluriel, mercredi prochain à 7h.
Marion, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à comprendre ces différents concepts?
Oui, bien sûr. Alors, l'énergie citoyenne, c'est quoi? C'est la réappropriation de la question de l'énergie et notamment de la production d'énergie, la production d'énergie renouvelable, par les citoyens, par les collectivités, par les acteurs du territoire. Historiquement et encore aujourd'hui en France, majoritairement, l'énergie, c'est une question d'État et de quelques grandes entreprises. Et le citoyen n'a globalement pas son mot à dire. Et les collectivités locales n'ont pas beaucoup leur mot à dire. Mais on veut décider. On veut prendre les choses en main. L'énergie citoyenne, c'est quand un projet d'énergie renouvelable est développé par des citoyens et ou des collectivités, ça peut être aussi avec un opérateur privé, et quand il appartient en majorité à des citoyens et à des collectivités, à des acteurs du territoire. Voilà, ça veut dire que ce sont vraiment ces acteurs qui ont la maîtrise sur ce projet, ce sont eux qui peuvent voilà prendre des décisions stratégiques sur le projet. Pour nous, à l'origine de la création d'énergie partagée, il y a eu une sorte de manifeste politique de l'énergie citoyenne qui s'appelle la charte d'énergie partagée et qui définit 4 piliers pour l'énergie citoyenne. Donc pour nous, un projet citoyen, c'est un projet qui va respecter ces 4 piliers. Premièrement, c'est l'ancrage local. Donc c'est un projet qui est voilà maîtrisé par les acteurs du territoire. Il faut que les collectivités, les citoyens, soit ils soient propriétaires majoritaires du projet, donc ils soient majoritaires au capital du projet, soit à minima, ils aient une minorité de blocage dans le projet. Donc ça veut dire qu'en gros, il ne peut pas y avoir de décision qui soit prise sur le projet qui aille à l'encontre des acteurs du territoire. Deuxièmement, c'est le pilier de la gouvernance. Il faut que c'est un projet qui doit être fait en toute transparence. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les projets classiques d'énergie renouvelable. Le troisième point essentiel, c'est le pilier écologique. Voilà, on sait que tous les projets d'énergie renouvelable ont des impacts plus ou moins importants sur l'environnement. Là, l'idée, c'est de vraiment réduire ces impacts au possible. Et le dernier point, c'est la finalité non spéculative. On n'est pas là pour développer un projet en 3 ans, le vendre à prix fort et partir du territoire. L'idée, c'est que les structures, les collectivités, les citoyens qui le développent, ils restent tout au long du projet. Alors, ils peuvent se faire, ils peuvent avoir un retour sur investissement, mais l'idée, c'est pas d'avoir des retours énormes. Voilà. Mmh. Un projet d'énergie renouvelable citoyenne, globalement, c'est ça.
Donc, sur le côté local, c'est-à-dire que l'outil de production de l'énergie, selon les différentes sources possibles, il est basé sur le territoire sur lequel vivent les citoyens qui sont impliqués dans la gouvernance et dans le financement du projet.
Globalement, oui. Globalement, oui. Après, on peut avoir des coopératives citoyennes qui vont investir dans d'autres territoires à proximité, mais souvent, la plupart du temps, les moyens de production sont sur le même territoire que les habitants qui ont investi dedans.
Et du coup, peut-être avant de rentrer un peu dans le détail de ces projets, aujourd'hui en France, est-ce que ça marche? Enfin, quel a été le premier projet d'énergie citoyenne? Aujourd'hui, quelle est la part de ces projets finalement? Vous parliez de grosses entreprises en introduction.
Alors, le premier projet, enfin, on va dire, il y a eu plusieurs projets, mais il y a notamment les premiers, c'est des parcs éoliens, et donc c'est notamment le projet de Bégawatt en Bretagne. C'était tellement compliqué que du coup ils ont fait partie des créateurs d'énergie partagée. Okay. parce que c'était un contexte très compliqué depuis.
Quelle année?
Ça a été commencé.
La mise en service
en 2014.
D'accord, donc c'est bien récent le sujet de l'énergie citoyenne en France.
Ouais, mais ça,
il a mis 10 ans à aboutir,
plus. Il a mis plus de 10 ans à aboutir. Donc c'était mi-année 2000, début année 2000. Et puis il a mis pas mal de temps à aboutir. Maintenant, on en est à autour de 300 projets citoyens en France. Donc c'est vrai que ça a bien essaimé de partout, dont en gros un tiers qui sont déjà en fonctionnement, un tiers qui sont en développement et un tiers qui sont vraiment à la phase d'émergence de tout début, okay. Quoi.
Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça montre que ça a doublé depuis 2016, puisque l'ADEME sortait en 2016 une étude qui parlait d'environ 150 projets. Là, on est à 300. En 2 ans, ça a doublé en fait.
Ouais. Okay. On est vraiment.
Donc, il y a une vraie dynamique à ce niveau-là.
On est vraiment en plein boom, effectivement.
Et dans le monde, les premiers projets, ça s'est développé à la même époque ou vraiment plus tôt?
Dans le monde, il y a l'exemple qui est connu de l'Allemagne. Je pense qu'il est l'exemple le plus emblématique.
Il y a encore un sujet où on va comparer la France et l'Allemagne. Alors.
Mais il n'y a pas que l'Allemagne, il y a aussi le Danemark, il y a la Belgique, nos amis belges. Non, mais en Allemagne, ils ont démarré la transition dans les années 2000. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à créer des coopératives citoyennes. Ils en sont aujourd'hui à plus d'un millier de coopératives. Et globalement, les habitants détiennent 42% des capacités d'énergie de production renouvelable.
C'est surtout ce chiffre-là, à la limite, qui est.
Donc ça, c'est assez significatif. Mmh. Il y a des coopératives ailleurs. À Bruxelles, il y a une coopérative qui s'appelle Energiris, qui fait du solaire, de la cogénération. Il y a une trentaine de coopératives en Belgique. Il y en a au Danemark où il y a une loi qui impose au projet éolien d'avoir 20% du capital qui est détenu par les habitants. Donc il y a des pays qui sont engagés de manière plus volontariste et plus tôt que la France dans ce mouvement-là. Donc moi je dirais qu'en France on est en plein essor, on est un peu au début de l'aventure et voilà, on est quelques centaines aujourd'hui, j'espère quelques milliers dans les années qui viennent.
Et le lien, parce que du coup en préparant l'émission j'ai fait un peu l'historique de l'énergie en France, le lien finalement avec toutes ces entreprises locales de distribution, parce que finalement on avait EDF, GDF en tant qu'entreprise au niveau national qui ont dominé depuis 46 dire le mix énergétique français, mais il y a Gaz et Électricité de Grenoble, Électricité de Strasbourg, qui sont aussi finalement des entreprises locales. Est-ce qu'on peut les considérer comme projets citoyens d'avant-guerre finalement ou, enfin...
En partie, ça dépend en fait la vision qu'on a d'un projet citoyen. En tout cas, nous, on considère que c'est extrêmement important quand un collectif citoyen veut développer un projet d'énergie renouvelable, qu'il aille voir sa collectivité tout de suite, parce que l'appui de la collectivité, il est essentiel. De la même manière, un projet qui va être développé, maîtrisé par une collectivité, il sera en général beaucoup plus accepté, avec beaucoup plus de retombées pour le territoire qu'un projet 100% privé. Néanmoins, un projet maîtrisé uniquement par la collectivité, ça n'en fait pas un projet citoyen à part entière. Voilà, il faut... à Énergie Partagée, on prête vraiment une attention forte au fait que quand une collectivité veut lancer un projet d'énergie renouvelable, il faut qu'elle s'appuie aussi sur ses citoyens, sur un collectif citoyen, sur une dynamique locale. Les élus seuls, c'est important, mais ça suffit pas.
Pour compléter ce que tu évoques, je trouve que ce que Cyril Dion dit dans son dernier bouquin intéressant, c'est la transition, elle a intérêt à se faire localement, et c'est la combinaison, l'alliance entre les collectivités, les citoyens et aussi les entreprises locales. Parce qu'on a besoin aussi d'entrepreneurs, donc c'est vraiment ce triptyque-là qui est intéressant et qu'on retrouve dans le capital des projets citoyens.
Mais des entrepreneurs qui sont déjà dans le secteur de l'énergie ou qui vont prendre des parts en tant qu'entreprise, mais qui ne sont pas forcément acteurs d'énergie.
Ouais, ça peut être des entreprises locales qui souhaitent s'engager dans la transition énergétique, donc des artisans, des PME qui souhaitent aussi investir à minima financièrement là-dedans.
Et pour revenir aussi à la question initiale sur les entreprises locales de distribution, et puis peut-être plus globalement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et surtout on ne peut pas en créer des nouvelles, mais par contre on a un peu partout, dans tous les départements, des syndicats départementaux de l'énergie. Donc, et puis les collectivités se sont beaucoup mises à créer des SEM, des sociétés d'économie mixte, qui investissent dans l'énergie. Donc ça, vraiment, ce sont des outils vraiment extrêmement utiles pour les collectivités. Ce sont les bras armés des collectivités pour travailler sur la question de l'énergie.
Peut-être qu'on y reviendra, parce qu'il y a aussi l'enjeu de l'évolution de la réglementation sur ces sujets et la prise de participation des collectivités dans ces projets finalement citoyens. On parlait de projets dans le monde, en France, à l'échelle de l'Île-de-France, la situation.
Où on en est en Île-de-France?
Où on en est en Île-de-France ou à Paris?
En Île-de-France, la région, c'est plus récemment que les projets sont lancés. Il n'y avait rien il y a 3 ans. Et là, on est à une quinzaine de projets. Des projets qui sont à différents stades. Il y a des projets où c'est des groupes de citoyens qui ont commencé à faire émerger d'idées. Il y en a qui sont déjà structurés en associations, donc il y a une dizaine d'associations. Et puis il y en a qui ont déjà franchi le cap de commencer à fonder des sociétés coopératives, donc là dans les derniers mois, donc ça s'accélère. Il y a trois coopératives qui ont été créées, Électrons Solaires sur les territoires d'Est Ensemble, notamment Les Lilas, Bagnolet, Pleine Énergie Citoyenne côté de Pleine Commune, et puis Enercitif sur le territoire de Paris. Il y en a d'autres qui vont suivre, Sud Paris Soleil, Acachan, etc. Donc il y a vraiment une envie aussi des franciliens d'agir sur leur territoire, et de pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas l'énergie citoyenne à Paris, en Île-de-France.
J'avais une question aussi sur la typologie en fait aussi des territoires, parce que c'est vrai que quand on parle de réappropriation à l'échelle des territoires, et puis surtout quand on parle d'énergie renouvelable, on parle souvent de territoires ruraux. Est-ce que aujourd'hui on a cette distinction? Est-ce que c'est vraiment porté par les territoires ruraux aujourd'hui? On voit que finalement l'Île-de-France s'est mis un peu sur le tard, a suivi le mouvement peut-être un peu plus tardivement, je sais pas, au niveau national.
Il y a vraiment de tout, Il y a de tout. Il y a autant des territoires urbains, il y a à Paris et en Île-de-France, mais citoyennaire, je crois, je ne sais plus. En gros, il y en a à Grenoble, il y en a à Toulouse, il y en a à Nantes, il y en a dans plein de grandes villes. Et il y a aussi beaucoup de projets des projets éoliens qui, pour le coup, ont plutôt vocation à se faire dans des territoires ruraux. mais des projets dans les territoires ruraux de solaire en toiture, de méthanisation, de solaire au sol. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi.
Ah, du coup, c'est intéressant. Vous avez dit méthanisation. On n'est pas uniquement sur de l'électricité renouvelable, finalement. On a aussi des projets d'énergie partagée en chaleur renouvelable.
Ouais, et aussi ouais. Donc il y a bois. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un tout petit peu, mais ça commence.
Il y a une inauguration, je crois, le mois dernier, Forest ONR, qui était une chaufferie bois et réseau de chaleur.
Ouais.
Ok, citoyenne, du coup.
Citoyenne, exactement.
Ouais. Tout à fait. Et puis, en méthanisation, on en est à 7 projets. Donc là, c'est plutôt des projets qui sont portés par des agriculteurs, des acteurs agricoles, mais voilà, des groupes d'agriculteurs.
Ok. Du coup, enfin, alors j'ai une autre question, mais alors je comprends bien le principe de la production d'électricité renouvelable. J'imagine que c'est soit de l'autoconsommation, soit de la revente au réseau. Mais par contre, du coup, sur Forest ENR, typiquement cette centrale citoyenne, elle alimente quel type de bâtiment ou enfin quel type de projet?
Alors je connais pas par cœur le sujet, mais c'est une chaufferie dans un petit village. Donc c'est une chaufferie bois et ensuite un petit réseau qui alimente il doit y avoir bâtiment, la mairie, peut-être un gymnase et puis quelques maisons, donc c'est des petits réseaux de chaleur, ouais.
D'ailleurs,
qui
alimentent
du public et du privé.
On parlait de projets en milieu urbain, les zones de production aussi, ils sont peut-être pas tous développés, mais ils arrivent à trouver par rapport à la problématique foncière. Ils arrivent à trouver et à installer des zones de production sur le territoire urbain.
Ouais, en milieu urbain, c'est vrai que déjà l'éolien c'est compliqué. Hein, Donc on a la biomasse et on a le solaire. Je pense que le plus simple, nous on cherche des projets qui soient assez simples à mettre en œuvre, robustes, fiables. Donc le solaire ça s'y prête bien. Donc c'est plutôt du solaire en toiture. Et donc on va chercher des toitures, on dit chez nous plutôt des petites et moyennes toitures, parce que les très grandes toitures, elles font l'objet d'appels d'offres. Et là, on est en compétition avec des développeurs privés, donc c'est compliqué quand on est des développeurs citoyens de jouer dans cette compétition. On n'a pas les mêmes moyens. Dans les toitures, on va dire qu'ils sont en dessous de 1000 m², c'est 100 kW de capacité. Et là, c'est un tarif qui est garanti par l'État, donc là, on peut tout à fait financer des projets. Donc, on cherche ce type de toiture. Donc, ça peut être des toits, si je prends l'exemple à Paris, ça peut être des toits publics, gymnases, stades, écoles. Ça peut être des HLM, de bailleurs sociaux. Ou ça peut être des toits privés, des toits d'entreprise, des toits de copropriété. Il y a plein de toits, en fait. Il y a des dizaines de toits.
On fait un appel aux toits ce soir, en fait.
Ce soir, exactement, je fais un appel aux toits. On a déjà des toits, mais on recherche encore des toits. Donc, si vous connaissez un toit de 350 m² à 1000 m²,
motivé et disponible,
qui est disponible, contactez-nous et nous, on se fait fort d'y installer une centrale solaire et de l'exploiter. Ça ne vous coûtera rien.
Donc, chez Enercitif, vous avez déjà des panneaux photovoltaïques installés sur des toitures dans Paris.
Alors chez Enercitif, nos premières installations, elles sont prévues pour 2019. Donc aujourd'hui, elles ne sont pas encore installées. On est dans les phases d'études et de choix. Donc ça approche et on inaugurera ça l'année prochaine. Ça fait partie des bonnes résolutions de 2019.
Et pour compléter, c'est vrai qu'il y a... En fait, dans les 300 projets citoyens, c'est vrai que la plupart, c'est du solaire et c'est ce qu'on appelle des grappes photovoltaïques parce que c'est un mélange de plein de toitures, des petites toitures, des moyennes, un peu plus grandes, etc. Parce que finalement, c'est des projets qui sont relativement simple. Je mets relativement parce que rien n'est simple complètement,
par rapport
à l'acceptabilité, à la réglementation, en temps de développement, c'est pas, on peut sortir des projets entre 1 et 3 ans. En projet éolien, c'est plutôt entre 5 et 7 ans en moyenne, voire bien plus pour le projet éolien citoyen. C'était plus de 10 ans. Voilà, donc c'est souvent ce type de projet par lesquels soit les structures commencent et après elles peuvent continuer avec soit le même type de projet, soit d'autres. Et puis par ailleurs, en milieu urbain, c'est vrai que c'est à peu près, finalement c'est à peu près le seul gisement dont on dispose.
Et sur les 300 projets qu'on évoquait tout à l'heure, la répartition des énergies, vous la connaissez à la louche, hein, mais pour avoir un ordre d'idée.
Alors, j'ai pas la répartition exacte, mais la majorité en nombre, c'est effectivement du solaire. Par contre, la majorité en puissance, c'est de l'éolien. Mmh. Et c'est typiquement sur les projets que Énergie Partagée a cofinancé. Donc, Énergie Partagée, c'est aussi un fonds qui lève de l'épargne citoyenne pour investir dans des projets citoyens. Donc, on a cofinancé 50 projets. Et là, il y a, en puissance, il y a 90% à peu près de la puissance, c'est de l'éolien. Et le reste, c'est solaire et un petit peu méta et bois.
Je vous propose peut-être de faire une première pause musicale et puis revenir justement sur cette notion de fonds solidaires.
Jusqu'au bout, on respecte les musiciens. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi, mode quatrième dimension ce soir, avec une émission consacrée aux énergies citoyennes et la transition énergétique. Je vous rappelle que nous avons deux invités, Marion Richard, animatrice de l'association Énergie Partagée, et Jean-Baptiste Blondel, membre fondateur d'Enercitif. Pourquoi en fait faire des projets d'énergie citoyenne? C'est quoi les motivations et la philosophie globale d'impliquer les citoyens dans la gouvernance et les projets d'énergie renouvelable essentiellement, quoi.
Déjà, je pense que ça part de la volonté de pas mal de gens de se réapproprier un peu certaines choses, hein. C'est pas que dans l'énergie qu'on voit les cosmétiques, les gens ont envie de faire leurs propres choses, le potager, se réapproprier l'alimentation, se réapproprier.
C'est presque du do it yourself.
C'est le do it yourself. Je fais mes meubles.
À manger, mais
c'est un peu plus complexe, mais ça participe. Voilà, c'est les gens se disent, ok, j'ai envie de revenir dans un système où je fais des choix, où je peux participer, où il n'y a pas tout un tas d'intermédiaires, où je peux choisir, voilà. Où, donc là, en l'occurrence, je choisis où est produit l'énergie, qui la produit, comment, et je m'implique dedans. Donc ça, c'est une, voilà, la volonté. Et aussi, il y a aussi un point important qui est, voilà, je vais peut-être pas parler d'effondrement, mais parce que sinon on en aurait pour un certain temps, mais il y a une urgence à agir. Voilà. On a quelques années devant nous pour significativement changer des modes de vie, changer les choses. Ça marchera pas si il y a que l'État qui s'y met, ou que les citoyens, ou que les entreprises. Faut que tout le monde s'y mette. C'est vraiment un projet sociétal, quoi. Donc nous, notre idée aussi dans l'énergie citoyenne, c'est d'embarquer un maximum de monde.
Donc dans un projet citoyen, il n'y a pas que des citoyens.
Non, il n'y a pas que des citoyens. Et avant tout, il y a un lien fort avec la collectivité. Je prends l'exemple pour Paris. Hein. Nous, on a un partenariat fort avec la ville de Paris. C'est un nouveau mode de relation avec eux. Hein. Mmh. Habituellement, voilà, on vote pour des élus. Les élus appliquent leur programme. Et puis 5 ans après, on regarde si on est content ou pas et on repasse au vote. Là, on travaille avec eux, on co-développe, on co-investit. Donc,
il y avait un peu les prémices avec leur budget participatif, en fait, finalement.
Ouais, tout à fait. Ça s'inscrit. Donc nous, d'ailleurs, on s'inscrit dans le budget participatif. C'est une façon de redonner la voix aux citoyens et de travailler un peu main dans la main avec la collectivité, les services municipaux. Alors c'est pas toujours simple, hein. On change des modes de fonctionnement, donc on essuie un peu les plates, mais c'est très passionnant. Et je voudrais, dans le pourquoi, je voudrais aussi insister sur d'autres éléments. Il y a la création de valeur sur le territoire. Si on a une coopérative d'énergie qui produit l'énergie et qui fait des bénéfices, vous les rendez aux actionnaires qui sont des citoyens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller la dépenser, ils vont aller chez le coiffeur, ils vont s'acheter, ils vont aller au ciné, ils vont dépenser l'argent sur le territoire. Donc,
réinvestir dans un autre projet.
Réinvestir, bien sûr, dans d'autres projets.
L'argent ne part pas en Ukraine, en Norvège ou...
Voilà, l'argent, il fuit pas le territoire. On retrouve un peu ce concept dans les monnaies locales. Hein, on essaye de faire en sorte que l'argent reste sur le territoire. Il y a aussi les emplois. Hein, on va s'attacher à ce que Que les panneaux solaires qu'on achète ne soient pas des panneaux chinois. Alors, on aimerait bien que ce soit des panneaux français. Il n'y a plus beaucoup de constructeurs, mais il y en a. Les installateurs soient des installateurs régionaux. Donc on va chercher à développer l'économie sur notre territoire. Et puis, dans l'actualité aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes, on voit que... Enfin, moi, je suis frappé, il y a quand même un lien social qui s'est cassé, des difficultés à discuter, à appréhender le vivre ensemble. Et voilà, ces projets, c'est aussi une façon de retisser des communautés, de débattre. La gouvernance coopérative, ça veut dire que quand on a un choix à faire, est-ce qu'on choisit telle et telle toiture, est-ce qu'on travaille avec telle et telle entreprise, on va choisir ensemble. Et donc ça se fait par des outils, la gestion par consentement partagé. Donc il faut s'écouter, il faut débattre. Parfois, ça peut être vif, on n'est pas forcément d'accord. Mais on apprend à trouver un consensus et à avancer ensemble parce qu'on est on veut aller dans la même direction.
Pour compléter et pour continuer à faire le lien sur le mouvement actuel où on parle beaucoup de justice sociale, de justice fiscale, de justice environnementale, les projets citoyens, c'est vraiment des projets qui permettent de faire le lien entre tout ça. C'est partager collectivement les bénéfices d'une ressource qui nous appartient à tous. Les ressources renouvelables, elles sont disponibles sur les territoires. C'est un bien commun. Et tu parlais, Jean-Baptiste, de retombées locales. Il y a une étude en Allemagne qui montre que entre un projet développé classiquement par un opérateur privé et puis un projet maîtrisé par un opérateur local, la différence de valeur créée pour le territoire, elle est de 1 à 7. Et en France, il y a une étude qui a été faite, alors un petit peu moins poussée, donc notamment sans prendre en compte le fait que les citoyens, avec leurs retombées, ils vont aller chez le coiffeur, etc. Mais on a une différence de valeur qui est déjà de 1 à 3 sur les premiers parcs éoliens. Et par ailleurs, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir investir de l'argent dans un projet éolien, quand les collectivités, elles investissent, ça permet, là, ensuite, les retombées qu'elles ont de par leur actionnariat, elles peuvent financer plus de services publics, plus de services collectifs, et ça bénéficie à tout le monde.
Et d'autres actions issues de leur stratégie climat, où on parle de plan climat maintenant, ça peut être aussi un moyen de financer une stratégie à l'échelle des territoires.
Ouais. Ou des actions de maîtrise de l'énergie, des actions de lutte contre la précarité énergétique. Enfin, ça peut clairement être aussi utilisé comme un moyen de faire de la justice environnementale.
C'est un super argument pour un plaidoyer auprès de nos élus, finalement. On va aller voir, nous, citoyens, on leur dit on fait un vrai projet de territoire ensemble et on garde notre attractivité, notre économie à l'échelle locale.
Complètement. Et d'autant que c'est des projets qui sont... où il y a une forte appropriation, en fait, par les habitants, par le territoire. Il y a 2 ans à peu près, France Énergie Éolienne, qui est le syndicat des professionnels de l'éolien, avait fait une étude sur l'acceptation de l'éolien en France. On se rend compte que, finalement, malgré ce qu'on a l'impression d'entendre, la majorité des Français aiment plutôt bien l'éolien. Par contre, ce qui revenait souvent, et notamment sur l'étude qui avait été faite auprès des habitants,
c'est... Mais pas trop près de chez eux, non ? C'est pas ça ?
Non, pas tant que ça. C'est parce qu'il y avait même 75% des habitants à côté d'un parc éolien qui avait plutôt une bonne opinion de l'éolien. Mais c'était, on sait pas trop à quoi ça sert.
C'est pas eux qui parlent le plus fort.
Ouais, voilà, on sait pas trop à quoi ça sert. En fait, quand on s'est investi soi-même dans un projet éolien, on sait à quoi ça sert. Il y a une vraie dimension d'éducation populaire et du coup, les habitants, c'est les meilleurs ambassadeurs ensuite de l'énergie renouvelable, de la transition énergétique.
Est-ce que vous avez une vision sociologique des personnes qui sont impliquées dans les différents projets ? En gros, on entend déjà la critique de...
Que des bobos.
Qui peut arriver vite, voilà, que des bobos, que des CSP+, que des jeunes qui ont fait des études supérieures. Est-ce qu'il y a une diversité sociologique ? Est-ce qu'il y a aussi des gens issus de classes populaires, de différents milieux ? Est-ce que je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop tôt ? Ou est-ce que vous avez au moins une vision, même si ce n'est pas des chiffres ?
Moi, je peux peut-être parler d'Enercitif, où il y a quand même une diversité de profils. Il y a tout le spectre d'âge déjà. Donc il y a des étudiants, il y a des retraités, des jeunes retraités et des plus anciens retraités.
Et on peut être bobo et retraité aussi.
Ouais, exactement. Il y a des actifs, et dans les actifs, il y a des instits, il y a des commerçants, il y a des cadres. Donc il y a des gens qui sont en reconversion, en changement d'emploi, donc ils sont au chômage. Donc c'est aussi une façon, je pense, c'est important, c'est aussi une façon pour les gens de développer des compétences et de créer des relations. Il y a des gens qui, enfin, c'est même une raison importante de participer à ces projets, pas uniquement développer l'énergie renouvelable, pas uniquement réduire les consommations d'énergie, c'est aussi bah, développer des compétences, développer son réseau, rencontrer des gens, voilà, créer du lien, avoir plaisir à retrouver des personnes.
Et du coup, c'est quoi, enfin, on parle d'Enercitif, finalement, c'est quoi un peu la genèse un peu de ce projet historiquement, enfin, comment ça s'est.
Il n'y a pas de lien avec les coiffeurs, là, parce que je sais pas, on a parlé deux fois.
Non,
là,
ouais.
Non. J'ai un petit doute.
On pourrait, mais non.
L'équipe de remplaçants.
On a un débat sur notre nom en ce moment. Et voilà, comme on est en collaboratif, on réfléchit et on va débattre collectivement sur est-ce qu'on trouve un nouveau nom.
Okay.
Ce sera pour l'année prochaine, ce serait une surprise. Enercitif, d'où ça vient cette histoire, comment c'est né? En fait, c'est né de 2016, au moment du budget participatif de la ville de Paris. Plusieurs citoyens qui, chacun dans leur coin, qui ne se connaissaient pas du tout, qui ont posé des projets en disant « Nous, on veut développer l'énergie solaire à Paris, il n'y a pas de raison qu'il y en ait ailleurs, et on ne voit pas un seul panneau solaire à Paris, c'est pas normal, nous, on veut le faire. » Et du coup, qui se sont retrouvés via cette plateforme, qui se sont dit « Bah, très bien, bah, on a la même volonté, mettons nos forces en commun, créons une association. » Et cette association, voilà, qui a été créée, il y a un projet commun qui a été monté, qui a été voté ensuite dans le budget participatif, qui a été voté par les Parisiennes et les Parisiens, et donc qui fait l'objet d'un partenariat avec la ville de Paris, donc avec une subvention pour l'investissement. Et puis depuis 2016, donc c'est bah, toute la structuration du projet, tout le travail de préparation, donc se former déjà, c'est quoi l'énergie citoyenne, c'est quoi les énergies renouvelables, juridiques, financiers, techniques, etc. Faire un modèle d'affaires, un modèle économique, structurer juridiquement le projet, voilà, quel type de société on fait, comment ça fonctionne, voilà, rechercher des toits, prospecter, regarder, étudier, trouver des partenaires, bureaux d'études, installateurs, donc des professionnels du solaire. Donc voilà, donc c'était là on était dans cette étape de structuration du projet, et maintenant on va enclencher voilà les phases de mise en œuvre avec des études détaillées pour confirmer les toits. Et puis une fois que les toits sont confirmés, bah, acheter les panneaux les panneaux sur les toitures.
Et du coup, comment ça, enfin, vous êtes accompagné financièrement, parce que j'imagine que c'est pas le seul budget participatif qui permet de faire toutes ces études, installer des panneaux.
Enfin, alors pour l'instant, on a touché 0 € du budget participatif.
Ok.
Puisque c'est une subvention à l'investissement, donc pour l'instant, c'est les citoyens eux-mêmes qui se financent, j'ai envie de dire. Donc il y a à peu près 45 fondateurs. Moi, je suis un des 45 fondateurs d'Enercitif. Voilà, chacun a mis un peu d'argent, on a fait un pot commun, et donc ça nous fait un capital aujourd'hui de 35 000 € qui va nous permettre de faire les études détaillées pour confirmer les premières toitures. Et ensuite, on fera appel de façon beaucoup plus large à tous les Parisiennes et les Parisiens pour quelques centaines de milliers d'euros d'épargne citoyenne qui vont nous permettre ensuite d'acheter les panneaux, et la ville va investir également à nos côtés, et puis on aura certainement aussi un emprunt bancaire.
Là, vous parliez 2019 les premiers projets, donc c'est sur quel arrondissement ou quel territoire, parce que je sais pas si c'est uniquement dans Paris intramuros.
Alors pour l'instant, on regarde essentiellement intramuros, mais pas que, il y a quelques exceptions. Alors dans Paris, il y a une complexité quand même, c'est qu'on a un magnifique patrimoine, on a beaucoup de monuments, et donc les architectes des bâtiments de France qui veillent au grain et à ce que les panneaux solaires voilà, soient pas installés
plus près possible du périph',
n'importe où, n'importe comment. Ça c'est un,
si on les écoute.
Ouais, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans le projet qu'on a convenu avec la ville de Paris, il y a un aspect éducation populaire, quartier populaire. Donc ça s'appelle quartier populaire à énergie positive. Et donc on cible, nous, en priorité, les quartiers populaires. Voilà, donc parce qu'on va installer des toits, des centrales solaires, et on va aussi sensibiliser aux économies d'énergie. Comment je fais pour réduire ma facture d'énergie avec des éco-gestes, des bonnes pratiques, etc. Voilà, donc les arrondissements, pour répondre à la question, plutôt 17e, 18e, 19e, 20e, et puis 11, 12, 13, 14, quoi, quelque chose comme ça. Après, on a aussi d'autres pistes. Hein. Il y a des copropriétés qui sont intéressées, qui sont pas dans les arrondissements que j'ai cités. Voilà.
Ok. Et le lien du coup avec énergie partagée, enfin c'est vous, Marion, t'as parlé d'un fonds solidaire tout à l'heure. Enfin c'est typiquement ce genre de fonds qui peut aider Enercity. Enfin c'est le lien entre les deux structures.
Ouais, en fait à énergie partagée, on a deux outils. On a d'une part l'association qui va appuyer, qui va faire plutôt de la mise en réseau, de l'animation, de la création d'outils, outiller en fait les porteurs de projets, les collectivités. Et puis on a un outil financier sous forme de coopérative qui lève de l'épargne citoyenne. Voilà, chacun de vous peut prendre dès aujourd'hui. Une part, une ou plusieurs parts, donc c'est 100 € la part, ce qui est assez classique hein, dans la plupart des projets citoyens. Donc soit on investit, en fait ce que fait Énergie Partagée, c'est qu'on va souvent investir dans des projets qui ont besoin de nous parce que ils ne peuvent pas lever tout seul, collecter tout seul assez d'épargne localement. Voilà, il y a plein de projets qui n'ont pas forcément besoin de nous. Ils arrivent à faire la collecte locale. Nous, on va investir souvent sur des projets un petit peu plus gros.
Oui. Ouais, peut-être. En tout cas, Énergie Partagée nous aide beaucoup. L'association Enercity et l'ensemble des projets en Île-de-France. Donc moi, je voudrais leur saluer un vrai coup de chapeau. Voilà, Énergie Partagée et l'ADEME aussi. Hein, l'ADEME qui à l'échelle nationale et dans différentes régions soutient les projets citoyens.
Qui est l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie.
Exactement.
Pour préciser.
Qui fait un super travail de ce côté-là.
Qui nous soutient beaucoup.
Très bien, avant d'aborder dans une troisième partie les perspectives et les différentes politiques publiques qui pourraient aider à ce que ces projets représentent une plus grande part dans la production d'énergie en France, on va écouter Zoufri Maracas, La Fée Électricité.
Pas peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Tous la gueule par terre, une terre par tête, mais tous la gueule par terre, une terre par tête, mais tous la gueule par terre, une terre par tête, mais tous la gueule par terre, une terre par tête, mais tous la gueule par terre.
Alors vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, donc émission Mode d'emploi animée par la quatrième dimension consacrée aux énergies citoyennes, et leur rôle dans la transition énergétique. Alors on a voilà abordé un peu ces projets, le pourquoi et comment finalement tout ça fonctionne. On est encore sur une part relativement minime finalement des projets citoyens dans le mix énergétique au niveau national. Comment finalement dépasser un peu ce seuil, ces minima? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Voilà, peut-être une première question ouverte avant de poursuivre.
Alors effectivement, aujourd'hui, même si on est sur une très très belle dynamique, c'est moins de 1% de l'électricité consommée en France qui est issue de production citoyenne. Mais ça va être plus, ça va être de plus en plus. Et l'objectif, c'est d'atteindre 15% d'énergie citoyenne et participative en 2030. Donc ça, c'est l'objectif que s'est fixé le collectif pour l'énergie citoyenne.
Ça voudrait déjà dire 15% d'énergie renouvelable en plus
déjà.
Sur la production électrique.
En soi, déjà.
En soi, ouais.
Mais
du coup, c'est un objectif.
Atteignable ou...
De votre collectif, pas de l'État. Enfin, typiquement.
Ah oui, c'est un objectif de notre collectif, effectivement. Okay. Oui, c'est pas un objectif de l'État, on n'en est pas encore là, mais on y travaille. Voilà, on a. Donc après, comment faire? Nous, en fait, on incite beaucoup les collectivités à non pas, on va dire, ce qui est encore beaucoup trop le cas, à être passives face aux opérateurs privés qui viennent développer des projets chez elles, mais à reprendre la main et à mettre en concurrence les opérateurs privés entre eux en faisant un appel à manifestation d'intérêt avec un cahier des charges où clairement elles vont indiquer des exigences en disant moi je veux un projet citoyen. Et après, et en fait, elle commence à le faire, elle commence à le faire de plus en plus, mais il faut qu'elle le fasse encore plus.
Est-ce qu'il y a une couleur politique au niveau des collectivités engagées dans la projet citoyen?
Bah, c'est plutôt, alors, c'est... quand on est sur des villes, c'est globalement, c'est plutôt des élus de gauche ou écologistes, mais ça, c'est sur les énergies renouvelables en général, hein, de toute manière. Et après, dans les territoires ruraux, souvent, c'est des élus qui sont pas encartés, donc là, c'est moins facile.
C'est petite collectivité.
Ouais. Voilà. Mais clairement donc voilà un gros rôle des collectivités pour avoir des critères citoyens, enfin déjà pour reprendre en main le développement des énergies renouvelables. Ça veut pas dire qu'il faut pas passer du tout par des développeurs privés, mais c'est un petit peu leur montrer le chemin ou leur forcer la main peut-être sur le fait qu'il faut intégrer les citoyens dans la gouvernance, qu'il faut ouvrir le capital des projets. Ça c'est un premier gros point. Il y a eu déjà pas mal d'avancées en fait avec la loi de transition énergétique où maintenant c'est beaucoup plus simple pour les collectivités d'investir dans les projets d'énergie renouvelable. Il y a aussi eu des nouveaux éléments avec on va dire dans les appels d'offres. Donc là c'est plutôt sur les gros projets où il y a un bonus, donc en gros on va acheter l'électricité plus cher quand il y a une partie des citoyens au capital, de citoyens ou de collectivités au capital. Ce qui fait qu'il y a des opérateurs privés qui commencent là à venir nous voir. Là où nous on a un souci, c'est que on peut avoir ce bonus si les acteurs citoyens restent au capital du projet pendant 3 ans uniquement. Pour nous ça suffit pas. Enfin c'est clairement c'est pas un projet citoyen. Donc voilà, il y a encore pas mal d'améliorations à faire, mais voilà ça fait partie de notre travail de plaidoyer.
Ouais, je rajouterais peut-être. Je pense qu'il y a aussi une reconnaissance peut-être à donner. Là, je te rejoins, le rôle des collectivités, il est vraiment essentiel. Et c'est aux élus aussi de commencer à s'emparer de cet outil-là. On plaide aussi pour le fait que l'État reconnaisse que les citoyens ont un rôle à jouer et qu'il inscrive un objectif dans sa stratégie énergétique d'une part d'énergie citoyenne. Je parlais tout à l'heure au Danemark, voilà, où il y a une loi qui explicite que 20% du capital des projets éoliens doit être détenu par les habitants. Enfin, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais voilà, il y a des choix au niveau de l'État qui peuvent être faits. Et puis, deuxième chose, il y a aussi un certain nombre, sans rentrer dans le détail, mais dans la réglementation, dans les processus administratifs, où on pourrait simplifier les démarches pour que ce soit plus facile pour des projets citoyens d'avancer. On n'a pas les mêmes moyens et le même argent que des développeurs privés, donc la simplification aussi va dans le bon sens. Et voilà, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement dans le plan solaire récemment, mais il faut aller faut aller plus loin, quoi.
Vous êtes intervenu pour la rédaction de la programmation pluriannuelle de l'énergie en tant qu'acteur de projet citoyen, parce que justement on parlait de préciser ses objectifs du collectif, peut-être l'inscrire dans une loi ou dans la programmation, on va dire à l'échelle de l'État. Est-ce qu'il y a eu des revendications, des participations aussi de votre côté sur ces sujets?
Alors, en toute honnêteté, je n'étais pas encore à Énergie Partagée quand
il y a le droit qu'à un joker par émission.
Voilà, donc là, je voudrais pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. En revanche, il y a eu un gros travail de fait sur les politiques locales, sur comment est-ce qu'on peut intégrer l'énergie citoyenne dans les plans climat, air, énergie territoriaux. Donc là, les politiques climatiques qui sont menées au niveau des villes, des intercommunalités, des bassins de vie, et puis dans les schémas régionaux d'aménagement, développement durable, et notamment donc en gros au niveau régional. Donc là, on a développé des actions à mettre en place, et maintenant l'idée c'est de suivre. On essaie d'avoir un suivi de comment est-ce que les collectivités intègrent cette question de l'énergie citoyenne.
Ouais, je pense que la voix citoyenne est encore pas assez entendue. Ça fait débat. C'était au premier semestre de cette année dans l'élaboration de la PPE, où d'un côté il y avait le débat citoyen animé par la CNDP, Commission nationale du débat public, et de l'autre côté le gouvernement qui planchait sur sa PPE. Et les deux étant censés arriver au même moment, donc on voyait bien que l'articulation entre les deux était pas
d'ailleurs évidente. Ça s'est pas vraiment rejoint au final.
Donc ça s'est pas tout à fait rejoint. Ouais. Donc là, on voit qu'on est encore dans un exercice un peu historique où la stratégie elle est plutôt établie d'en haut. Il n'y a pas encore une articulation. Et quand je dis citoyens, c'est aussi les territoires au sens large avec les collectivités. Je pense que les régions qui sont maintenant des chefs de file sur la stratégie climat, air, énergie ont aussi envie de participer à ce débat-là. Donc voilà, j'espère qu'on va aller dans ce sens-là.
Et il y a un enjeu fort aussi à mobiliser finalement aussi, parce qu'on parle de citoyens, de collectivités, mais finalement les entreprises qui ne sont pas des entreprises du secteur de l'énergie. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, comme acteurs aussi, ça peut être aussi des acteurs à aller chercher, à former, à sensibiliser avec des capacités d'investissement peut-être plus importantes que le citoyen lambda.
Puis elles sont concernées, elles sont toutes consommatrices à des niveaux différents, mais...
Bah, on a déjà un certain nombre de biocoop, par exemple, pour ne pas les citer, qui ont du solaire sur leur toiture. Donc oui, c'est important à la fois en termes d'investissement, mais aussi elles ont un patrimoine, elles aussi il y a du potentiel, notamment sur leur toiture, et c'est intéressant pour elles. Aussi en termes d'image. Alors l'idée c'est pas de faire du greenwashing, c'est pas ça la question, mais typiquement quand on est sur des biocoop, c'est complètement dans la même démarche, quoi. C'est à la fois coopérative et écologique.
On a surtout parlé de production et du côté de la consommation. Par exemple Enercoop, comment ça marche par rapport aux différents projets qu'on a évoqués, parce que là en fait par exemple, quelqu'un veut s'investir dans un des projets à Paris, mais en fait, chez lui, il va pas forcément consommer cette énergie-là. Ça va repartir par dans le réseau, en fait.
Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, alors, déjà, on va distinguer ce qui se passe physiquement, où va l'électricité, et ce qui se passe contractuellement à qui on l'achète. Globalement, si j'installe une centrale solaire sur le toit ici, que je la revends sur le réseau, physiquement, c'est quand même les gens du quartier qui vont la consommer. Par contre, contractuellement... nous on va la revendre, en l'occurrence on va la revendre à Enercoop. Enercoop c'est une coopérative de consommateurs et qui du coup ensuite vont acheter à des producteurs de l'énergie pour la revendre à des clients particuliers. Donc si vous êtes client d'Enercoop, Enercoop lui va ensuite acheter de l'énergie à différents producteurs qui sont des producteurs locaux d'énergie renouvelable. Voilà, il y a dans la région,
pas que des citoyens,
exactement,
que dans le renouvelable.
Et donc dans les fournisseurs d'énergie, dans les producteurs auxquels Enercoop s'approvisionne, il y a des projets citoyens.
Parce que là, par exemple, un auditeur qui n'a pas forcément envie de s'investir dans le côté production, mais qui veut acheter de l'électricité verte.
Mais quitte EDF.
Et il va chez Enercoop, clairement.
Voilà, mais est-ce qu'il y a d'autres dispositifs, d'autres associations, coopératives, ou c'est Enercoop, c'est aujourd'hui, en tant que consommateur, c'est le seul...
Enercoop, c'est le seul qui combine à la fois la dimension écologique, 100% énergie renouvelable, où on est, et coopératif. Donc où on a ces deux dimensions. Enercoop, c'est à la fois ils s'approvisionnent directement auprès des producteurs, donc c'est en circuit court, et ils sont en coopérative, donc avec un modèle de gouvernance démocratique.
Moi, j'invite les auditeurs à regarder le Greenpeace qui a fait un rapport sur les offres vertes. Effectivement, c'est un peu compliqué pour savoir est-ce que l'offre est verte, pas totalement verte, les certificats, les garanties d'origine, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Greenpeace a fait un classement, voilà, et ils ont expliqué, d'après eux,
classement des fournisseurs,
classement
d'énergie
des fournisseurs
à l'échelle française.
À l'échelle française, voilà. Donc Enercoop fait partie de
Équateur aussi.
Équateur, et j'ai oublié le troisième.
Et après, on a ces fameuses entreprises locales de distribution qui peuvent être pour un certain nombre d'entre elles aussi assez vertueuses en termes.
Assez ambitieuses et dynamiques sur le sujet, ouais.
Mais pas 100% comme Enercoop.
Pas forcément 100%, mais il y en a quand même qui travaillent bien la question sur Grenoble notamment.
Ou qui visent le 100%.
Ou qui visent le 100% et qui investissent dans les moyens.
Je vois l'heure qui tourne. La petite minute. Je sais pas si vous avez un dernier mot à nous dire sur cette fin d'émission. Voilà, c'est votre moment à vous, votre minute à vous.
Ah bah moi, je ne résiste pas à faire un appel au toit. Voilà, 1000 mètres carrés. Si vous avez toit de 1000 mètres carrés, vous êtes une entreprise ou une copropriété motivée. Voilà, contactez-nous enercitif.org.
Et juste, je réagis parce que moi, je vais prendre mon rôle de citoyen, mais c'est intéressant. Et si on a une copropriété qui est pas motivée, est-ce que vous avez des arguments pour motiver cette copropriété?
Ouais, tout à fait. On a un petit argumentaire. On a construit un argumentaire en fait,
okay.
Puisqu'on est en contact avec plusieurs copropriétés en ce moment. Et donc, on est généralement en contact avec le conseil syndical. Et ensuite, il faut passer en AG pour expliquer à quoi ça sert. Les gens souvent se posent des questions de est-ce qu'il y a un risque d'incendie, est-ce que ça va pas poser des problèmes sur le bâtiment, qu'est-ce qui se passe au bout de 20 ans, comment ça va se passer. Donc, on a
disponible sur votre site.
Il n'est pas disponible sur notre site, mais en nous contactant, on se fera un plaisir de le transmettre.
Bon, entre le panneau photovoltaïque et l'antenne relais téléphone mobile.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux?
Bah, le panneau photovoltaïque, voilà, il
produit. Tu fais antenne relais.
Ça fait, ça, t'as pas le problème des ondes, normalement.
Il n'y a pas de problème d'ondes, voilà, exactement.
Marion?
Et moi, je voulais revenir sur parce que voilà, en ce moment, c'est vraiment important, je pense, de bien faire le lien entre environnement, écologie, justice sociale, justice fiscale, sur le fait que la se réapproprier l'énergie, c'est aussi une question de démocratie, d'égalité, de justice sociale et environnementale, et pour voilà, je pense que c'est intéressant de dire qu'il y a une toute récente étude de l'ADEME qui s'appelle Trajectoire d'évolution du mix électrique 2020-2060 qui prévoit une baisse du coût de l'électricité pour le consommateur français grâce à un fort développement de la part des énergies renouvelables. Voilà, donc si on développe à fond les énergies renouvelables et pas les EPR, on va avoir un coût de l'électricité qui va baisser.
Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci.
C'est un peu comme dans toutes nos émissions en fait. C'est comment faire de la politique autrement.
Tout à fait. Mais citoyens, engagez-vous.
Merci
Jean-Baptiste, merci Marion d'être venu à notre émission. Je vais faire une petite pub pour Énergie Partagée, mais aussi pour Cyril Dion, puisqu'on l'a cité tout à l'heure. N'hésitez pas en ces périodes de fête à regarder le documentaire Après-demain, puisque voilà, il y a quelques exemples d'énergie citoyenne qui sont présentés dans ce documentaire. Vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur le site Mode d'emploi. modeemploi.net, tout à fait. Le prochain thème de notre émission, donc animé par la quatrième dimension, ce sera le 25 janvier. Il portera sur les grands projets inutiles en France et les actions de résistance. On vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end et une bonne année. On se quitte avec Patti Smith qui nous précise que le peuple a le pouvoir.